I know how it sounds.
La sex exploratrice. Avec Mel Trudel.
La sex exploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice ce soir en compagnie de Mel et Nick Cloutier.
Salut!
Hello, hello! Hello, hello, coucou!
Salut!
On a ce soir une invitée par téléphone que je ne tarderai pas à vous présenter parce que je pense qu'encore une fois, on va manquer de temps pour aborder tous les sujets qu'on voudrait aborder avec elle. Donc, on a avec nous l'auteur du livre « Mon périnée sans tabou », Mélanie Claveau, qui est aussi physiothérapeute, surnommée la physio pas gênée, donc une experte en santé abdominopelvienne qui a expérimenté elle-même plusieurs symptômes et elle a décidé de créer une approche innovante afin d'améliorer le quotidien des femmes vivant avec des situations similaires. Et vous le savez, je parle souvent de l'importance de bien muscler sa région pelvienne, son muscle, son périnée, afin d'augmenter les sensations lors de relations pour vous-même, mesdames, mais aussi pour votre partenaire. Donc, je pense qu'on a la bonne personne ce soir pour nous expliquer l'importance et comment ça marche là, physiquement et comment venir à bout de certains problèmes en lien avec notre périnée.
J'imagine, moi, j'ai des amis de filles, là, des fois, qui partent à rire et qui disent « Oh non, je vais faire pipi dans mes cloches. » Oui. Je suis persuadée que ça va être bon
parler.
Pour elles.
Yes, exactement. Donc, on a Mélanie Claveau, la physio pas gênée. Bonsoir.
Bonsoir à vous deux, bonsoir à tous qui nous écoutent. Bien contente d'être ici, merci beaucoup de l'invitation.
Hey, merci, je suis vraiment très heureuse. Ça fait longtemps hein, qu'on a prévu cette entrevue-là,
oui.
Puis j'avais hâte. Parce
je pense
que
ça fait un an, pour être honnête, mais je suis très contente que ça aboutisse.
Yes, exactement. Ce qui est le fun, c'est que toi, tu parles vraiment sans filtre de la santé du périnée. Chez mesdames surtout, bon, messieurs en ont un aussi, mais
on peut-tu avoir des problèmes nous aussi avec ça?
Mais je pense que
en fait, j'avais commencé par parler aux hommes, hein? Mais personne n'écoutait. Fait que j'étais de la marge, je parlais aux femmes.
Ben non!
Là, les femmes, ils m'écoutent, eux autres.
Ah, oh, ça, c'est drôle!
C'est qu'on est tête dure, hein?
Oui, mais nous, on a beaucoup d'auditeurs
masculins.
On a beaucoup d'auditeurs masculins.
Ça fait un job.
Oui, c'est ça! mais sérieusement, pour messieurs, c'est aussi important, là. On peut-tu en parler un petit peu?
Ben écoute, l'érection est à 56% musculaire.
En lien avec le périnée.
Ben oui, fait que si tu as une bonne musculature pelvienne, tu as des érections plus rapidement, plus solides, qui durent plus longtemps. L'éjaculation aussi, il y a un très grand contrôle qui est musculaire. Donc, si tu as une belle barrière musculaire, tu peux contrôler ta latence éjaculatoire. Puis les hommes, l'affaire, ils ont un problème, eux. C'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont faibles de la région pelvienne parce qu'ils n'ont pas un trou en plein milieu du bassin comme nous, les femmes. Mmh. Notre vagin, nous, ça reste une espèce d'espace où est-ce qu'on peut expérimenter des lourdeurs si on force un peu tout croche. Puis on n'a pas non plus de prostate. Les hommes, la prostate, ça va empêcher d'avoir des pertes urinaires parce que ça vient compresser l'urètre, le tuyau pour sortir l'urine. Les femmes, on n'a pas ça. Fait que nous, si on force tout croche, on fait pipi, on s'en rend compte, on change. Ce qui fait que les hommes, vous êtes beaucoup plus faibles du plancher pelvien que les femmes. Et vous ne le savez pas,
ben non,
que nous, on
pas.
Le sait très vite. Mais vous ne le savez pas. Fait que ça va se répercuter souvent.
Je vais écouter, là.
Tu m'écoutes?
Okay, ben, bon, oui, prends des notes, là.
Il m'écoute, prends des notes, OK, c'est bon. Ça se répercute souvent en trouble érectile, en trouble à la latence éjaculatoire, mais aussi en hernie inguinale, hernie ombilicale, hernie discale, douleur aux hanches, douleur aux genoux. Fait que c'est souvent votre plancher pelvien, les gars.
Ben c'est drôle, j'ai pas de problème érectile ou tout ça, mais j'ai mal aux genoux, j'ai mal dans le bas du dos, j'ai mal à plein de places.
Ben là, tu vas pouvoir faire des exercices de compression, en fait, de stimulation pelvienne. Comme nous, on fait là, des contractions pour muscler notre plancher pelvien, ils peuvent le faire eux aussi.
Mon Dieu, oui. Hey, ça, c'est des belles activités à faire en équipe. Là.
Même oh, on Dieu, a des let's go, mais on contracte!
J'ai hâte de dire à ma
ben
blonde,
oui, ben viens. Nous, on fait des... Hey, mon Dieu, en plus, je parle tout le temps en même temps que toi. Je me teste, écoute, Nick.
J'allais dire, j'ai hâte de dire à ma blonde, viens, on va aller muscler
notre
périnée.
Oui, c'est
ça.
Hey, aujourd'hui, à radio, j'ai musclé mon périnée.
Ben oui, c'est ça, on s'amuse.
Mais c'est parce que, puis je trouve ça le fun avec ton livre, je pense que tu abordes vraiment ça là, sans tabou, parce que, comme tu le dis, on croit souvent à tort que l'inconfort causé par toutes les problématiques liées au périnée, bien, ça peut être normal et irréversible. Une fois qu'on accouche, on peut avoir des problèmes de ce côté-là. Puis moi, je dis souvent, tu sais, au high salt, là, où est-ce qu'il y a des trampolines, là, où on va avec les enfants, il devrait y avoir des couches, des pens pour les mamans. Parce qu'on est toutes là, les mamans, on saute, puis on se regarde, puis... ça n'a pas de bon sens, là. Sérieusement, ça touche beaucoup de femmes.
Ben
Moi, tu vois, j'ai eu le problème inverse lors de mon accouchement. Moi, je me suis tellement bien préparée. Hein. J'ai musclé mon périnée et tout. Et, tu sais, souvent, les femmes, la grande majorité, vont déchirer vers le bas. Et ça, on va en parler aussi tout à l'heure. Mais ça peut arriver que ça déchire par en haut aussi, si le périnée est trop musclé. Mais il y a toujours du beau. Il y a toujours du beau, hein? Moi, en recousant tout ça, ça m'a apporté des nouvelles sensations. donc, il y a du beau dans tout.
Mais ça, on va déconstruire une croyance déjà. Je trouve ça super intéressant qu'on aborde le sujet. Ben, c'est une croyance que les gens ont qu'un périnée musclé va déchirer plus. Mais c'est complètement l'inverse, en fait.
Mais non, exact.
Parce qu'un muscle qui est bien au repos va être beaucoup plus compétent quand on lui demande des charges supplémentaires. Donc, un muscle qui au repos peut se reposer, quand on lui dit « force donc », il va faire un bel effort, va être super compétent. Fait que les gens qui sont très forts, généralement, du plancher pelvien, vont avoir des grandes détentes. Puis au contraire, plus tu es fort de ton plancher pelvien, généralement, parce que tu peux avoir des pathologies, là, on va en parler peut-être plus tard, mais plus tu es fort de ton plancher pelvien, plus tu ouvres ton chemin pour bébé passe. Là.
Oui, exactement.
Fait que moi, c'est un risque de déchirure. Fait que souvent, quand on a des faiblesses, puis qu'on dit à notre plancher pelvien, travaille. Puis il travaille juste pour nous verticaliser, hein. C'est un muscle de posture debout. Fait que dès qu'on se met debout, il travaille déjà très fort. Notre plancher pelvien va aussi rattraper notre équilibre. Il va tenir la continence, là, on le sait déjà. Mais il va aussi permettre d'alléger nos jambes, d'alléger nos bras. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de jobs à faire. Fait que si lui, au contraire, on lui dit, fais tous tes jobs, mais il n'y a pas la force de les faire, mais son réflexe, ça va être de se tendre. Fait que, puis là, il est tendu, il est contracté au repos, il se repose jamais. Fait que là, il est plus à bout, fait qu'il est moins compétent. Mais on lui dit, continue à faire la job, fait qu'il va se tendre encore plus. Fait qu'on se ramasse avec des muscles hyper tendus, hyper faibles. Fait que ça, c'est comme une balance à retrouver, en tout cas, avant d'accoucher, c'est certain. Là. Mm-hmm. Mais c'est pas juste l'accouchement là, qui pose des problèmes pelviens. En fait, 20% des femmes qui ont jamais accouché, en ont des problèmes pelviens. Juste après une grippe, on en développe, là.
Ah oui?
Ben oui. Juste sur le coccyx, hein, en snow. Ou en patinage.
Ben, c'est vrai.
Toutes des affaires de périnée, ça.
Puis tu disais de soigner le périnée par les pieds.
Ben oui.
Je comprends pas le lien.
Je comprends.
Ben en fait, je sais qu'il y a bon, des trucs de réflexologie là, par les pieds. On peut bon, masser les pieds dans telle zone, ça a un lien avec le foie. Dans telle zone, ça a un lien avec les poumons. Dans telle zone, c'est une des plus vieilles médecines, même, je pense, là, en... au niveau de la médecine chinoise. Mais est-ce que ça a un lien avec ça? Est-ce que c'est en lien avec la réflexologie?
Ben non, moi, j'ai aucune notion en réflexologie.
Okay.
Fait que, puis je dis pas que ça a vraiment, justement, c'est une des plus vieilles médecines. Nous, vraiment, au niveau du pied, c'est plutôt comment il va être positionné au sol.
Oh.
Ça va aligner nos segments, donc d'os, fait que notre tibia par rapport à notre fémur, par rapport à notre bassin, ça va venir influencer comment nos muscles sont capables de contracter. Fait que des fois, quand on a des asymétries au niveau de la posture des pieds ou notre pied travaille pas bien au sol, on se ramasse que peut-être la moitié de notre vagin contracte pas bien. Puis aussi, de la façon qu'on déploie le pied au sol, ça va venir activer nos nerfs de plancher pelvien parce qu'en fait, c'est les mêmes nerfs dans nos pieds que dans notre plancher pelvien. Puis c'est dans notre cerveau, notre plancher pelvien se retrouve à la même place que nos pieds. Fait que les deux viennent ensemble au niveau neurologique. Fait que si, moindrement, on ne déploie pas notre pied complètement quand on marche, quand on court, on n'active pas notre région pelvienne de façon optimale, donc on peut devenir symptomatique. Fait que les pieds ont une grande importance dans notre confort pelvien puis nos performances sportives.
Wow, très intéressant.
Si je comprends bien, dans le fond, Mélanie, c'est que tu peux avoir mal aux pieds, mais c'est pas vraiment aux pieds que j'ai mal. C'est un peu ça?
Ben l'affaire, là, c'est ça. OK, tu m'amènes ailleurs. Je peux y aller?
Ben oui, vas-y.
Let's go.
J'ai la permission. Écoute, c'est parce qu'en plus, c'est dans notre corps, nos muscles sont enrobés de fascia, qu'on appelle, des enveloppes. Tu sais, un peu une poitrine de poulet, là, il y a une enveloppe bleutée autour.
Oui.
Ça, c'est un fascia. Puis dans notre corps, nos fascias vont être cousues aux fascias d'un autre muscle, puis cousues à un fascia d'un autre muscle, puis ça forme des chaînes dans notre corps. Puis notre plancher pelvien est dans la chaîne antérieure profonde. Puis la chaîne antérieure profonde, c'est toutes des muscles qui travaillent ensemble. On a le fascia plantaire, le mollet, l'intérieur des cuisses, le plancher pelvien, ça monte dans notre psoas, notre diaphragme, ça va jusqu'à notre cou, notre crâne. Mmh. Fait que si moindrement dans cette chaîne-là, il y a quelqu'un qui fait pas le job, tout le monde doit compenser, fait que tout le monde s'épuise. Ou s'il y a quelqu'un qui est sous tension, ben tout le monde se ramasse sous tension autour. Fait que tout le monde est à bout aussi. Fait que c'est vraiment comme des amis qui sont supposés travailler en équipe puis s'aider. Puis des fois, ben il y en a qui ont des petits problèmes, puis là, tout le monde compense ça.
Et là, nous, en tant que femmes, on porte souvent des talons hauts, donc j'imagine que c'est pas tellement bon pour notre périnée, ça?
Non. C'est un bon instinct.
Ouais, OK.
Les talons hauts, ça amène d'autres choses. Ça me donne une impression de pouvoir. Tu sais, c'est comme psychologiquement, tu sais, je veux dire, faut pas non plus être rentré au couteau. Là. On a le droit de mettre des talons. Mais effectivement, tu sais, notre pied et même tous les souliers, même les souliers d'hommes, sont souvent fermés en pointu au bout. Ça nous empêche de déployer nos orteils complètement. Fait que c'est pas l'idéal là, en termes de stratégie de corps, par exemple. Là. Stratégie de posture, stratégie de mouvement, les réflexes de protection. Fait que là, maintenant, c'est cool. Là, il y a des souliers qu'on appelle minimaliste, où est-ce qu'on vient vraiment ouvrir le soulier pour qu'il suive vraiment les orteils. Ça, je vous invite, si vous avez des enfants, surtout là, pour les aider dans leur développement, quand vous voulez leur acheter une chaussure, sortez la petite semelle de l'intérieur, mettez-la au sol, puis mettez le pied de l'enfant par-dessus ou le vôtre, là, c'est vos souliers que vous achetez. Ici, quand on met le poids, nos orteils dépassent de la semelle, c'est vraiment pas un bon soulier pour nous.
Bon truc, ça. Vraiment. OK. Puis, moi, je parle souvent des œufs de yoni, les œufs de yoni, des boules chinoises, des objets là, pour muscler le périnée. Qu'est-ce que tu aurais à conseiller aux femmes qui voudraient le faire? Parce que ça peut avoir, en fait, j'aimerais qu'on parle justement des bienfaits à long terme de ces exercices-là, les exercices de Kegel.
Oui. Bien, en fait, là, la région pelvienne est souvent plus surmenée qu'elle a besoin d'être nécessairement renforcée. Donc, il y a des gens, oui, qui ont besoin de renforcer la région pelvienne, mais ça, je recommande à tout le monde de la renforcer, la région pelvienne. Mais moi, ce que je trouve qui manque, c'est qu'on explore l'intérieur de notre vagin, qu'on explore l'intérieur de notre canal anal à la recherche de tension, parce qu'en fait, c'est un accès privilégié pour décoincer notre dos, décoincer nos hanches, notre pubis, notre coccyx, nos nerfs. Donc, on a vraiment plein de choses qu'on peut découvrir par voie interne. Fait que moi, j'aimerais que les gens explorent plus, viennent trouver plus d'attention, viennent faire des massages, viennent faire des points de pression pour détendre leur région pelvienne qui a tendance à être surmenée. Pour les renforcements, effectivement, c'est super pertinent parce qu'avec le renforcement, il y a plein de belles choses qui peuvent arriver, mais il faut contrebalancer avec des assouplissements, là, comme j'expliquais tout à l'heure.
Quand on parle d'aller explorer, là, est-ce qu'on parle de faire des massages comme on nous montre à faire justement avant l'accouchement là, avec un peu d'huile? On va aller faire une espèce de U là, dans le bas du périnée, là, à l'intérieur de la... au bord là, de la paroi vaginale. Est-ce que tu proposes aux gens de faire ça aussi avec l'anus, c'est ça?
Bien, en fait, moi, ce que j'aime faire, là, parce que ton vagin, tu peux, puis ton canal anal, là, parce que les hommes, explorez-le, là. Il y a tellement de tension aussi chez les hommes, c'est fou, là,
oui,
comment vous soulagez beaucoup votre dos. Ça allège les jambes, même que quand on a un périnée en santé, on chante mieux, on chante plus fort, on parle plus fort, on tousse mieux, puis on a les bras plus forts de quasiment 20%.
Mais voyons donc, c'est puissant.
C'est fou, là. Il y en a qui disent que c'est le cœur qui est important pour vivre. Moi, je trouve que c'est le périnée, là, en termes d'importance.
Là, je me fais le porte-parole des gars, des hommes qui nous écoutent.
Qui n'ont pas exploré.
Moi, je n'ai jamais fait l'exploration, j'avoue. Mais c'est pas évident nécessairement. Il faut savoir comment le faire, j'imagine. Pis...
Ben non, faut pas savoir. Explorons. Mais je peux vous dire comment faire en gros. Bon.
Oui,
mais
moi... Explique-nous ça.
Fait que, tu peux insérer ton doigt, puis tu peux l'insérer un petit peu moyen, gros, là, ton doigt.
Avec du lubrifiant idéalement.
Oui, tu peux mettre du lubrifiant absolument. Puis tu peux venir plier ton doigt pour faire comme une espèce de crochet. Puis là, tu peux venir pousser sur tes muqueuses à la recherche d'un os, en fait. Fait que tu peux vraiment, de ton vagin ou de ton canal anal, venir avec ton doigt en crochet, pousser vers tes os sur le côté de ton bassin, vers ton coccyx, vers ton os de fesse. Fait que tu peux vraiment venir explorer en pesant contre ta muqueuse ou vers tes os. Puis à un moment donné, mais ça se peut que tu trouves une petite région plus sensible, là, ben, tu peux tenir une pression à ce niveau-là, puis venir laisser détendre. Tu respires, tu prends le temps, tu peux faire des petits massages, puis à un moment donné, tu sens que ça relâche. Puis honnêtement, après, tu te sens flotter. Là. On dirait que tu marches comme sur un nuage.
Oui, est-ce que c'est...
Quand tu t'es relâché, ça fait bien.
Moi, je vois mon collègue, il a tellement... ça a l'air de tenter.
Moi, je me dis, je suis déjà un chanteur dans la vie. J'imagine que ça s'est musclé là, de lui-même.
Hey, imagine! Oh, bon. Peut-être que tu as quelque chose à cacher.
Oui, oui. Mais c'est pas évident, je pense, pour les hommes. Peut-être qu'on est un peu gêné ou mal à l'aise, je le sais pas.
C'est
mais...
de moins en moins tabou quand même, je
oui,
pense.
Oui, mais c'est moins... Je sais pas.
C'est moins tabou, mais peut-être que dans ton intimité, là, tu pourrais peut-être essayer. Oui, oui, oui. Avec
le petit
crochet. Donc ça, c'est quelque chose que nous aussi, mesdames, on pourrait essayer. C'est possible facilement de le faire quand même à l'aide d'un doigt ou de des jouets là, par la région vaginale. Anale, est-ce que tu conseilles aussi l'utilisation de jouets peut-être? Est-ce que ce serait peut-être...
Là, c'est sûr qu'en anale, il y a un réflexe d'aspiration. Là,
ouais.
Fait que
ouais,
faut vraiment vrai. Avoir de quoi qui se freine. Hein? Tu sais, il y a un butt stopper, là,
un
stopper au bout de notre objet.
Ouais.
Ça, des histoires d'objets pris dans le rectum, là, il y en a beaucoup.
Ah,
fait
oui.
que, on peut utiliser un objet tant qu'il a un stopper pour pas qu'il reste pris en haut après.
Oui.
Fait que c'est notre abonné mise en garde numéro un, mais oui, on peut utiliser absolument des objets. T'sais, il existe là des espèces de mais c'est pas des vrais dildos, là, mais moi je m'en étais fait faire un dildo en forme de U un peu. Sinon, tu peux avoir en forme de S aussi. Fait que
oui,
dans
puis
ce temps-là,
sont
ça
sur
fait
le long.
Comme un.
C'est comme un peu perlé, là, de petits petit embouts, le plus petit ou plus gros, là, qui peut être utilisé aussi.
Mais vraiment avec une courbe dedans. Fait que là, tu peux vraiment venir faire des leviers en le tassant vers la droite. Il va faire plus de pression d'un côté. Fait que ça, c'est surprenant, les tensions qu'on a pris là-dedans. Parce qu'en fait, notre plancher pelvien, c'est un muscle qui est surtout innervé de façon autonomique. T'sais, on n'a pas conscience. C'est pas comme, mettons, je prends un crayon. Là, ça, c'est volontaire, c'est pas un accident. Mais tu sais, quand on rajoute de la bile dans notre estomac pour digérer, ça c'est pas nous qui décide ça. Fait que notre plancher pelvien, il est très autonome. Là. Il gère beaucoup de choses à notre insu. Fait que c'est un muscle qui va être très réceptif à notre stress, notre charge mentale, nos peurs. Bref, il va avoir tendance à beaucoup se tendre là, face aussi à notre vie psychologique autour là, notre quotidien qui nous surmène parfois. Fait que c'est des muscles que si on vient relâcher, mais ça vient nous calmer les nerfs aussi.
Wow! Est-ce que c'est un lien avec la libération d'hormones en lien avec ça? En le stimulant, ça libère par exemple la dopamine, des trucs comme ça ou pas du tout?
Oh mon Dieu, le plancher pelvien est très, très dépendant de nos hormones, autant les hommes que les femmes. Donc, ils sont très interreliés. Il y a beaucoup de formations qui sortent sur le sujet, justement. Là, moi, cette année, je m'étais formée au niveau de la grossesse pour mon prochain livre. Mais mon prochain livre, ça va être sur les hormones et le plancher pelvien. Fait que je vous reviendrai avec plus de détails,
ben
mais
oui.
C'est nouveau qu'on s'intéresse à cette relation-là.
Ah, ouais. Moi, les hormones, j'ai commencé à lire là-dessus autant chez les hommes que chez les femmes, la ménopause, l'andropause. C'est fascinant. C'est fascinant.
Ah oui,
ça devrait. En fait, on a un problème de santé publique, tant qu'à moi, de ce côté-là, au niveau de surtout là, de la détection de la ménopause et de l'andropause. Là. C'est hallucinant là, à quel point les médecins ne sont pas outillés pour bien, bien diriger les gens par rapport à tout ça.
C'est très récent qu'on s'en soucie scientifiquement.
Oui.
Donc, tout est à découvrir.
Ben oui.
Puis moi, j'ai tout le temps la mentalité, soyons nos propres experts. Donc, explorons, découvrons. C'est une passion, découvrir notre belle machine, en fait.
Ben oui, exactement. Puis, en découvrant comme ça, ben, on pourrait même découvrir peut-être de nouvelles sensations. Et j'en ai déjà parlé en faisant les exercices de périnée, de contraction, les exercices de Kegel. On peut même en venir qu'à avoir un orgasme par stimulation. Il y a des femmes qui viennent même qu'à avoir un orgasme en faisant du sport. Il y a différents types d'orgasmes qui existent. Donc, est-ce qu'on pourrait parler justement des avantages des exercices qu'on peut faire et du plaisir que ça pourrait apporter au fil du temps?
Ben oui, ça c'est drôle parce que je fais des réadaptations, moi, virtuellement, j'ai des cours de groupe, on s'entraîne, en tout cas, bref, on est une petite gang, on fait nos réadaptations ensemble, et souvent, autour du 9e cours, les filles m'écrivent en privé, ils disent, hey, là, je sais pas ce qui m'arrive, mais moi, on dit que je jouis plus vite, puis c'est bien plus fort, puis moi, ils sont super contents, puis comme ils m'en parlent pas trop, mais en tout cas, ils sont vraiment satisfaits de cet effet secondaire, mais c'est très commun, effectivement, là, parce qu'en fait, un orgasme, c'est très, très musculaire, c'est très neurologique. pédiatrique. Il y a une très grande composante hormonale que présentement, je me sens pas outillée d'aller en profondeur, mais je me sens au niveau mécanique outillée là, pour y aller. Fait que dans l'orgasme, on a besoin d'atteindre des contractions très fortes pour être en mesure de déclencher le processus, mais aussi des relaxations très grandes, puis osciller entre les deux assez rapidement pour qu'éventuellement il y ait un orgasme. Fait que plus tu es capable d'être très fort, plus tu es capable d'être très relâché, bien plus tes orgasmes vont être hyper intenses finalement. Fait que ça, de l'entraîner autant en force qu'en souplesse, ça a vraiment tout un intérêt au niveau sexuel.
C'est tellement intéressant.
Est-ce que c'est sensiblement la même chose du côté masculin ou c'est totalement différent?
Oui, c'est la même chose au niveau masculin. Ouais. Oui, en fait, au niveau masculin, c'est surtout un aspect de contrôle, je dirais, qui est apprécié généralement au niveau de, justement, là l'éjaculation, quand on la laisse aller, par exemple, le contrôle à ce niveau-là, au niveau de la rigidité de l'érection, mais aussi au niveau de l'intensité des orgasmes, les contractions vont venir jouer à ce niveau-là aussi.
Parce que je sais que chez la femme, 90 % des nerfs de la zone érogène, en fait, seraient situés dans les premiers centimètres du vagin. Donc, justement, là où se trouvent là, principalement les zones du périnée, finalement. Donc, c'est ce qui fait que ça peut accentuer la sensation. Et lors de la relation, bien, en contractant, inévitablement, ça serre davantage. Donc, ça peut apporter du plaisir également au partenaire, là.
Oui, bien ça, tu sais, on peut avoir des problématiques aussi. Mmh. Puis là, je sais pas, tu sais, il faut tout le temps voir qu'est-ce qui vibre avec nous, qu'est-ce qui vibre pas, mais tu peux avoir une béance vaginale ou est-ce que là, ton vagin, il est peut-être pas aussi refermé qu'il était. Moi, j'ai vécu ça après mon quatrième enfant. Mon vagin, il a fait de la merde. Moi, je ressuscite, elle comprend rien, il y aura plus rien qui sort de là. Fait que il est resté comme mort ouvert, tu sais. Fait que moi, il a fallu que je l'entraîne, ma béance vaginale, pour refermer mon vagin puis retrouver des sensations agréables. Puis effectivement, il y a beaucoup de sensations qui se produisent dans la portion en avant du vagin à l'entrée à cause du point G, mais il y a aussi notre col qui peut être à l'origine d'orgasme. Puis on a aussi un petit pacemaker dans le fond du vagin en arrière qui va venir aussi aider là, au niveau des sensations. Fait que vraiment, tout le vagin va venir travailler. Puis on a des nerfs aussi. Tu sais, nos nerfs d'orgasme, ils partent de juste en dessous de la brassière. Fait que pour avoir un orgasme, il faut que ces nerfs-là qui traversent notre ventre, tout le canal là, près du pubis pour aller vers notre région pelvienne, mais il ne faut pas qu'il soit non plus écrasé sur le chemin, il ne faut pas qu'il y ait des tensions ou des problèmes. Il faut que ce soit bien mobile, qu'il bouge bien pour être en mesure de bien travailler. Il y a beaucoup de choses qui sont fun à penser. Puis au niveau pelvien, ben, c'est ça. Fait que si tu as moins de sensations, l'abéance, ça se travaille. Il y a plein d'exercices là, pour travailler au niveau de l'abéance en dehors des relations. Mais oui, là, le renforcement a tendance à venir refermer un peu pour augmenter là, les sensations à la pénétration.
Je pense que tu as vécu quelque chose que beaucoup de femmes vivent après un accouchement. Quels seraient, en fait, les exercices que tu proposerais et sur une période de combien de temps est-ce que tu as dû faire ces exercices-là? Et à partir de combien de temps est-ce que tu as vu une différence au niveau de la sensation puis de retrouver un peu de plaisir, finalement? Est-ce que c'est bien long?
Bien, en termes de temps, à partir de l'âge de 15 ans, on commence à perdre de notre sphincter urinaire 1 % par année chez certaines femmes. Fait qu'on perd de nos compétences profondes dès l'âge de 15 ans. À chaque année, on en perd. Puis à un moment donné, on est vraiment comme hyper désavantagé là, au niveau de la profondeur de notre corps. Fait que ça, moi, en termes d'hygiène de vie, un peu comme les dentistes nous ont bien expliqué, tu dois brosser tes dents tous les jours. Selon moi, tu devrais aussi entretenir la profondeur de ton corps tous les jours. Pour tes postures, ton confort global, la légèreté de tes bras, mais aussi au niveau sexuel, urinaire, toutes ces choses-là. Fait que ça, tu sais, en termes de temps, moi, je l'ai enlevé de ma nation, mais je vais quand même répondre à ta question qui est super pertinente. Mais le temps, je l'ai enlevé parce qu'en fait, moi, avec mes clientes, c'est des outils que je leur donne, puis on travaille une hygiène de vie où est-ce qu'à tous les jours, ils viennent entretenir et soutenir leur corps dans leurs défis, puis qu'ils sont constants tous les jours. Fait qu'ils se ramassent tout le temps à s'améliorer un peu, puis ils réalisent, OK, ben là, mon jardinage d'hier m'a affaibli, puis ils remontent la pente, OK, on m'agrippe. À m'affaiblir, ils sont tout le temps en train, ils sont hyper connectés. Fait que ça, c'est fascinant. En termes de béance vaginale, c'est des exercices qui sont assez complexes. J'en ai fait une plateforme accessible sur les réseaux. J'ai mis 10 exercices, je vais en rajouter un bientôt que j'ai appris récemment. Donc, on se ramasse avec des exercices spécifiques à la béance. Par contre, ils sont très compliqués. Donc, ça nécessite d'avoir fait un peu de physio avant. Donc, avoir fait un peu d'exercices normaux de plancher pelvien avant. Puis, quand tu en as fait un peu, tu t'en prêtes, là, tu peux tomber dans les exercices un peu plus là, spécifiques à la béance vaginale. Moi, en tant que telle, là, je vais essayer de retomber dans le temps. Ça fait 2 ans que j'ai accouché. Okay. Ma béance, elle a été très intense. Là. Moi, je faisais juste me lever du sofa puis j'avais des pètes de noun, là.
Oh non! Un éternuement, ça peut être épouvantable.
Oh, ouais, c'était vraiment bien. Mes enfants trouvaient ça bien drôle, là. Fait que je me suis quand même mis à entraîner rapidement parce que, tu sais, comme physio, je trouvais retourner en clinique puis faire plein de bruit de même, c'était un peu bizarre. Fait que je me suis mis à m'entraîner beaucoup. Je pense que c'est quelques mois quand même. Pas en semaine, là. Ouais, c'est en mois.
C'est déjà le moment d'aller en pause. On est en compagnie de Mélanie Claveau, physiothérapeute que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de la physio pas gênée. Après la pause, on va parler de différentes problématiques comme le vaginisme. Moi, je me demandais si c'était psychologique ou physiologique. On va parler également de ton spectacle Vulve, et, qui est une conférence humoristique. Et tu fais aussi des conférences pour les professionnels. Donc, on va parler de tout ça et plus encore après la pause. Restez avec nous. Vous êtes à l'écoute de la Exploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio.
La sexploratrice. Exploratrice avec Mel Trudel. Radio X.
Vous êtes de retour avec la sexploratrice ce soir. On a Mélanie Claveau, physiothérapeute, également surnommée la physio pas gênée, sur les réseaux sociaux. Avec elle, on peut parler de tout sans tabou. Hein? En
oui.
Premier bloc, là, on a parlé de pas mal tout sans tabou pour lui. Pour elle. Là, tu as des petits devoirs à faire, Nick.
Je le sais, on en a parlé durant la pause. Bon, c'est ça.
J'ai bien de l'anus, là. C'est un trésor, découvrir son anus.
Tellement! Ben oui! Et on va aller maintenant avec les pathologies, les différentes pathologies,
oui.
Parce que j'ai entendu des histoires d'amis, des personnes, en fait, qui ont une réelle envie d'avoir des relations sexuelles, mais lorsqu'arrive le moment de la pénétration, c'est presque incontrôlable. En fait, le vagin se ferme complètement. Et c'est comme s'il n'y avait rien à faire pour le détendre malgré le contexte très romantique, le contexte de relaxation et tout. Il n'y a rien à faire. Je crois que c'est ce qu'on appelle du vaginisme.
Oui, donc un vagin qui se ferme, on appelle ça du vaginisme. Il y a différents degrés. Il y a certains vagins qui se ferment complètement. Là, on pourrait même pas insérer un Q-tip, par exemple, tellement qu'il est fermé, là. Donc, ça peut être... c'est sûr, là, tu parles de l'environnement plaisant, tout ça. Il y a vraiment quelque chose de relationnel. Il y a un côté psychologique qui est très important, mais il y a un côté musculaire aussi, que là, c'est plus de mon ressort, en fait.
OK, mais il y a vraiment un côté psychologique là, qui est lié à ça souvent.
On peut pas dissocier les deux, en fait. Même dans les études maintenant plutôt physiques, on va toujours parler de cet aspect-là, parce que ce qu'on réalise, c'est qu'on va tout le temps ressentir nos émotions dans notre corps avant de les percevoir dans notre tête puis de les comprendre dans notre tête. Fait qu'on va toujours vivre, notre corps va vivre l'émotion bien avant qu'on en ait conscience. Fait qu'on peut pas dissocier les deux. Puis au niveau sexuel, tu sais, il y a une composante hormonale, neurologique, musculaire, mécanique. Tu sais, il y a cette composante-là, mais il y a la composante expérience, le bagage, la relation, l'environnement, la pression qu'on subit, tu sais, la pression au niveau de la sexualité en couple, elle est réelle, le devoir conjugal, en guillemets, il existe encore. Puis moi, ce que j'aime dire à mes clientes, ça, c'est pas moi qui me l'appuie toute seule, c'est ma collègue Corinne Vanier qui est aussi sur le web. Elle m'avait dit, tu sais, Mélanie, avant d'accepter une pénétration, il faudrait que nos clientes aient une excitation de 8 sur 10.
Oh! OK.
C'est pas à 8 sur 10 d'excitation, c'est ton devoir conjugal.
Et moi, je parle souvent des schémas érotiques. Est-ce que ça peut être peut-être intéressant d'explorer ça, de tenter de découvrir notre schéma érotique et celui de notre partenaire pour essayer de trouver comme un terrain c'est ça? Est-ce que ça pourrait aider peut-être?
Bien, en fait, moi, je trouve ça hyper pertinent de se découvrir soi-même. Parce qu'on,
en tout cas,
au niveau des femmes, on en parlait à la pause, que moi, j'ai beaucoup étudié l'histoire, le bagage historique là, par rapport à nos corps, les femmes. J'ai pas étudié l'homme encore, mais au niveau des femmes, tu sais, on est vraiment très dissociés, là. Il y a beaucoup de gêne, même de la honte. On regarde notre vulve, on l'aime pas. Tu sais, il y a vraiment... quelque chose de très violent par rapport à notre propre corps. Puis on a aussi appris, très jeune, on a été conditionné qu'on n'existait pour le plaisir de ceux qui nous entourent. Puis notre valeur, c'est on se sacrifie personnellement pour le bien d'autrui, puis on est très valorisé là-dedans. Fait qu'on a été conditionné comme ça. Fait que souvent, même sexuellement, on se connaît pas vraiment. Là, je parle général parce que on s'entend qu'il y a des filles qui ont catché ça bien plus vite que d'autres, là. En tout cas, bien plus vite que moi. Que de découvrir elle-même tous les bienfaits que ça a. Mais notre sexualité, c'est une partie de notre santé. Donc, ça fait partie des choses qu'on devrait effectivement venir découvrir en solo, de plein de façons pour expérimenter, mais ramener ça à nous.
Heureusement, on a ouvert les on a laissé tomber les tabous parce que tu parlais d'éducation et d'historique. Il y a même une époque où on disait ne te touche pas, c'est mal, c'est pas bien.
Ben oui, exact. C'est scientifique. Les médecins, c'est Kellogg, hein, entre autres. Kellogg, celui qui a fait les céréales, c'est un médecin. Puis lui, tu sais, la sexualité, il y avait plusieurs infections que tu peux transmettre sexuellement. Fait que c'était dit, regarde, faites tout le sexe, vous n'avez plus de maladie. Tu sais, fait que là, tu sais, la masturbation rend ça, ça part un peu de là où est-ce que si tu te masturbais, tu fais tomber malade. Puis là, on finit à croire que, par exemple, la source de l'épilepsie, du cancer, même de la désobéissance, c'était le clitoris. Fait qu'on enlevait les clitoris des femmes. Puis le dernier qu'on enlevait ici, en Amérique du Nord, c'était en 1948.
Quand même, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça.
Donc, on a ces croyances-là. Ouais. Donc, tu sais, on a beaucoup. Puis, tu sais, un temps où est-ce que les femmes, vraiment, là, tu sais, c'était un don de Dieu, la sexualité, puis l'orgasme. On croyait qu'il fallait que les femmes jouissent pour pouvoir tomber enceinte. Fait qu'il y avait des cours qu'on donnait aux hommes pour qu'ils fassent jouir leur blonde. Puis on était des jouisseuses précoces. On était dominés par nos pulsions intérieures. Puis là, tranquillement, tu sais, au niveau religieux, là, on a mis beaucoup d'oppression. Là, on voulait pas que les femmes, tu sais, on voulait que c'est devenu plus la possession d'un homme. Là, on a devenu plus un objet. Fait que là, les femmes bien éduquées, ben, les autres, ils jouissaient pas au lit, là. Il n'y avait pas de forme. Puis, fait que, tu sais, il y a une grande pression. Puis après ça, scientifiquement, on est venu justifier là, cette inégalité-là, en fait, au niveau sexuel, en disant justement qu'il y a plein de problèmes qui venaient de notre utérus, l'hystérie, plein de problèmes, nos dépressions, ça venait de notre utérus,
oui, ben, c'est
utérus
comme ça,
de nos ovaires.
C'est comme ça qu'a été créé le premier vibrateur, hein, si je me trompe. C'était en fait le docteur George Taylor ou quelque chose comme ça en 69, je pense, qui lui masturbait les femmes avec son avant-bras, soignait les femmes pour hystérie avec son avant-bras. À un moment donné, il avait mal. Il a décidé d'utiliser un objet qui était très vibrant pour utiliser ça. Et c'est comme ça qu'est né le vibrateur. Donc, non, mais c'est incroyable. C'est en 1869 ou 1969, me semble. En tout cas, je
Moi, je suis pas bonne en date, sources, mais là. Je te crois.
Mais c'est ça. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que l'anxiété de performance et les complexes sont nés, je pense, avec l'accès au porno, en fait. Ouais. On voit des vulves parfaites. On voit que l'homme doit donner le plaisir à la femme. Là, la femme se retrouve qu'elle n'arrive pas à avoir d'orgasme. Elle croit que le plaisir doit venir de monsieur.
C'est en 1869.
1869. Ouais. Oh, je suis pas pire.
C'est bon, mais impressionnant.
Fait que c'est incroyable, tu sais, c'est comme si on pitchait tout dans la cour. En fait, on nous présentait des trucs complètement faux. Ça crée de l'anxiété de performance chez madame,
ouais,
chez monsieur. Complexe, incroyable au niveau des vulves. Donc ça, d'ailleurs, on va parler de l'histoire de la vulve dans une autre émission complètement, qui sera complètement consacrée là, à tout ça avec toi.
Oui, parce que c'est passionnant, vraiment, notre bagage qui teint tellement notre quotidien actuel. Puis ça, par rapport à la pornographie, j'ai aussi créé une plateforme pour les ados où est-ce qu'il y a une sexologue, des psychologues pour l'estime personnelle, l'intimidation, le cyberharcèlement. Puis on parle justement de pornographie dans cette plateforme-là. Puis ça a vraiment des enjeux réels sur... Ça amène une réalité qui n'est pas... c'est pas la vraie réalité qu'on souhaite. Ça, c'est une demande que les femmes ont beaucoup, justement, de mettre la pornographie un peu plus réaliste. Puis là, c'est pas encore ça, là, présentement.
C'est incroyable. Et dans les autres pathologies que tu vois, parce que, bon, il y a le vaginisme où là, le vagin se ferme complètement, mais il y a aussi des gens qui vivent de la douleur lors de pénétration, de réelles douleurs.
Il y a plusieurs. Bien, là, au niveau du vaginisme, ça se traite en physiothérapie, là.
OK.
Je veux juste que les femmes sachent, on n'est pas prêt avec ça. Je veux dire, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire pour venir ouvrir cette barrière-là au niveau physique et psychologique. Donc, il y a des traitements très reconnus, très supportés par la littérature qui fonctionnent très bien. Sinon, au niveau des douleurs, effectivement, on part ailleurs. Donc, tu peux avoir des douleurs de type brûlure, par exemple, déchirure, qui sont très intenses au début d'une pénétration puis qui s'estompent avec le temps. Tu peux avoir des douleurs qui s'empirent avec une pénétration vaginale avec le temps. Donc, tu peux avoir des douleurs aussi plus de type neural ou est-ce que c'est tes nerfs qui sont compressés ou à vif qui vont donner des douleurs même, tu sais, juste avec la couture de tes sous-vêtements, la couture de ton pantalon en position assise. Donc, il y a vraiment plusieurs types de douleurs. Ça aussi, ben, on peut le traiter en physiothérapie. Donc, on va venir au niveau des compressions de nerfs. On va essayer de décompresser les nerfs sur leur trajet. On va normaliser la musculature, optimiser la mécanique. Puis, au bout du compte, ben, on se ramasse que ça s'améliore.
Il y a des femmes également qui vivent des réactions, des vaginites ou des infections à répétition, soit après une relation ou dès qu'elles portent un morceau de vêtement qui n'est pas fait de coton, elles vont prendre un spa, des trucs comme ça. Moi, j'ai un truc à leur donner, je ne sais pas ce que tu en penses, mais d'insérer une capsule d'acide borique, c'est maintenant en vente libre en pharmacie, c'est un pot que vous pouvez acheter une fois par semaine. Moi, c'est un truc qu'un médecin de famille m'a donné en début vingtaine et depuis, plus aucun problème de ce côté-là, ça rééquilibre complètement le pH. Donc, ouais. On dirait que ça apporte un certain équilibre de ce côté-là, puis terminer là, les infections. Je ne sais pas si ça peut être comme ça pour tout le monde, mais en tout cas, toutes les femmes à qui j'ai donné ce truc-là, et même des hommes à l'époque où je faisais des chroniques dans le soir, là, il y a plusieurs années, il y a des gens qui m'ont réécrit pour me dire « Hey, merci, ça marche vraiment ». Donc, des capsules d'acide borique, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Et je ne sais pas si tu aurais d'autres trucs à donner à ces femmes-là qui font parfois des réactions à répétition. Il y en a qui font juste manger sucré, puis elles font des réactions vaginales. C'est fou, là.
Ben oui, mais le pH vaginal va jouer énormément, donc tout ce qui peut le rééquilibrer pourrait aider. Donc ça, tu sais, c'est ça, moi, ça me prend une évaluation pour donner un conseil peut-être plus précis, mais globalement, si on y va plus globalement, souvent, c'est après une infection, on se ramasse avec des tissus un peu plus rigides qui glissent moins bien. Puis là, on a beau racheter du lube, ça va glisser mieux le pénis dans le vagin, par exemple, mais ça va pas mieux glisser notre muqueuse par rapport à notre muscle, notre nerf, toutes les couches de tissu qu'on a en profondeur doivent glisser les unes sur les autres. Puis après une infection, bien ça peut se rigidifier, ce qui fait qu'on est comme pris dans un pain. Fait que là, s'il y a un mouvement de va-et-vient, bien il y a de l'inflammation qui va plutôt se créer, puis là, ça peut se réinfecter là aussi. Ça crée un chemin qui est plus facile d'accès aussi, vu que les tissus sont un peu moins bien mobiles et engorgés. Fait que nous, en physiothérapie, on va la travailler, par exemple, la mobilité de l'urètre, la mobilité des tissus pour éviter là, les infections à répétition. Mais il y a plein de choses qui peuvent affecter là, autre que ça. Là, moi, j'allais y aller plus dans le niveau mécanique, mais effectivement, le pH, ça peut être une des sources.
Oui, vraiment. Il y a également les différents types de lubrifiants qui peuvent être utilisés. Si vous voyez que le lubrifiant à l'eau, pour vous, ça ne fait pas, c'est un peu plus collant. Puis il y a des gens, parfois même, pour qui ça va chauffer, même si c'est hypoallergène. Vous pouvez vous tourner vers un lubrifiant au silicone, qui, lui, va être beaucoup plus glissant, peut-être plus agréable aussi, mais à ne pas utiliser avec des jouets de silicone, parce que là, ça peut créer une réaction chimique et briser votre jouet. Ouais. C'est quelque chose que j'ai
appris. Nos pauvres jouets. Ouais. Mais effectivement, au niveau du lubrifiant, on peut vraiment là aller à différents niveaux. On peut même tester certaines huiles aussi. Donc, il y a plusieurs textures. Moi, j'ai toujours trouvé les à base d'eau très irritants, personnellement. Il y en a d'autres qui ne jouent que par ça. Moi, je suis mieux à base d'huile. Donc, tu sais, c'est comme différent, mais nous, en clinique, on utilise à base de silicone. Ça fait qu'on se ramasse, que ça glisse très bien, puis ça ne s'estompe pas. Là, ça ne devient pas comme liquide chauffant. Là, ça reste tout le temps moelleux. Ça fait qu'on traite beaucoup avec ça, nous.
Très intéressant. Et après l'accouchement, il y a des femmes qui vivent, c'est ça, des pertes urinaires, des douleurs associées à tout ça. Pour monsieur, parfois, c'est difficile à comprendre quand ça fait un mois, deux mois, trois mois qu'il n'y a pas eu de relation parce qu'il y a des douleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire ou comment est-ce qu'on peut tenter d'aider là, à retrouver la forme rapidement, disons?
Bien, moi, j'aurais tendance à dire quelque chose de très cru, mais vous m'avez fait venir parce que je parle cru.
Oui.
Crûment.
Sans tabou.
C'est un mot, ça, je parle crûment. Mais écoute, ouais, on va inventer un nouveau mot. Ouais. Chacun est responsable de sa propre sexualité et de mettre pression sur sa conjointe qui est en guérison, moi, je trouve que c'est mal.
Tellement.
Mettre une pression juste de ce mot-là est mal, je pense.
Ah oui.
Ben, en fait, c'est qu'on n'est pas un objet sexuel, on n'est pas là pour satisfaire quelqu'un d'autre. Donc, une relation sexuelle, c'est un travail d'équipe plaisant pour tout le monde. Fait que si, en période de guérison, quelqu'un met pression, c'est parce que peut-être a travaillé quelque chose sur lui-même, parce qu'en tant que tel, il serait censé être autonome dans sa sexualité.
Et compréhensif. empathique.
Aussi, peut-être plus ouvert. Puis en termes de sexualité, notre sexualité, quand on vient d'accoucher, ça va prendre jusqu'à 2 ans avant qu'elle redevienne comme elle était. Pour plein de raisons qui sont beaucoup plus complexes que juste l'acte sexuel. Par exemple, tu sais, on a le bébé très collé à nous, ce qui nous comble vraiment de tendresse, d'amour, ça fait qu'on a moins besoin d'explorer de d'autres façons. Il y a plein d'autres façons qu'on peut connecter, autres qu'une pénétration vaginale aussi. Ça aussi, historiquement, on en reparlera dans un autre épisode.
Les relations phallocentriques.
Une relation sexuelle, c'est une pénétration, mais c'est fuck all ça, là, tu sais. Ouais. En fait, nous, notre relation sexuelle, c'est notre clitoris, qui n'est pas moins important qu'une pénétration, puis tu peux avoir des relations sexuelles sans pénétration. Fait que, comme, mettons ces bases-là. Fait que, il y a plein d'autres façons d'exprimer la sexualité qui sont autrement, mais il faut quand même comprendre qu'au niveau environnement, il y a aussi le choc. Des fois, tu viens à vivre quelque chose de gros dans ton corps, ressentir que tu te redécouvres, que tu te repossèdes aussi. Il y a plein d'étapes environnementales, psychologiques, d'adaptation que la femme doit traverser. Donc, c'est gros vivre une grossesse qu'on banalise beaucoup parce qu'on dit, hey, une femme est faite pour ça, mais c'est immense comme transformation psychologique et physique pendant, après. Donc, c'est tout ça qu'on doit venir plutôt soutenir. Fait que, tu sais, moi, j'aime bien que mes clientes sachent qu'il y a un bon 2 ans postnatal où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Je pense pas qu'on devrait se mettre cette pression-là parce qu'au contraire, quand on sent qu'on a envie, on est rendu là. Puis, il y a d'autres façons d'échanger dans le couple pour avoir cette proximité-là, pour avoir cette tendresse-là, pour avoir cette connexion-là. Ça peut être vraiment autre chose que la pénétration. Fait que moi, j'aimerais juste dire aux personnes qui écoutent que la pénétration, ce n'est pas
l'unique
la relation
façon.
Sexuelle.
Non, exactement. Non. Et c'est pas parce que madame a eu une césarienne que ça va nécessairement guérir.
La césarienne amène beaucoup plus de douleurs vaginales à la pénétration qu'un accouchement vaginal. Vaginal qui n'a pas été traumatique, là, qui n'a pas eu d'instrument ou de déchirure importante, grave 3-4, on s'entend. Donc ça, dans la littérature scientifique, c'est soutenu parce qu'au niveau de la césarienne, on vient beaucoup jouer sur les structures de glissement. Donc tout ce qui vient glisser les uns sur les autres pour rendre confortable nos mouvements, fait qu'on se ramasse à affecter ça, ce qui fait qu'on peut avoir moins de mobilité dans notre vagin, notre peau bouge moins bien, fait qu'on est beaucoup plus inconfortable suite à une césarienne.
Souvent, en tant que gars, je reviens sur le fait de après l'accouchement, il y a beaucoup de changements hormonaux, changements physiques, la femme doit se réapproprier son corps. Il y a beaucoup de choses que, même si les hommes ont dit « ouais, ouais, on est empathique », il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre et qu'on ne comprend pas. Fait que peut-être qu'après des fois un an et demi, on a l'impression que c'est peut-être... Je vais essayer. Moi aussi, je suis cru dans la vie.
Oui, je comprends ce que tu
veux dire. Mais tu sais, on pense que c'est peut-être une défaite ou on a de la difficulté à le comprendre. Peut-être qu'au niveau de la communication, il pourrait y avoir une explication aussi de dire, écoute, c'est pas que je te désire pas, mais je le ressens pas. Mais ça peut être difficile
dans un
couple.
C'est ça, parce que peut-être
aussi,
que madame a pas d'envie.
Ça se peut,
parce
là.
Que justement, bébé vient combler beaucoup le besoin affectif et tout. Donc peut-être que madame a moins envie et qu'elle utiliserait cette... raison-là pour ne pas...
Peut-être que la libido n'est pas là, mais peut-être. Ça s'explique, j'imagine.
Mais oui, la communication.
Bien, en fait, il y a la libido, mais il y a aussi le fait qu'on n'a pas de village. Puis ça, c'est vraiment extrêmement douloureux. Tu sais, on nous laisse croire qu'on doit tout faire tout seul. Puis on nous valorise aussi d'aller faire notre Costco une semaine après avoir accouché.
Ah,
puis là,
ouais.
On voit ses réseaux sociaux, la fille qui recommence à s'entraîner 2 semaines après. Mm-hmm. Fait que, il y a vraiment comme beaucoup de violence.
Pression sociale.
Entourant l'accouchement, beaucoup de pression sociale. Tu sais, la femme qu'on voit, wow, t'es enceinte, t'es belle, dès qu'elle accouche, elle est plus belle, là. Tu sais, son ventre, elle l'haït. Tu sais, c'est très violent. Puis au niveau de la charge mentale, tu sais, ça a été dur. Mon conjoint, moi, il a été père au foyer. On a 4 enfants. Puis à la COVID, moi, sur le web, ça allait exploser. Puis ça qu'il n'y avait plus besoin de travailler. Je faisais assez d'argent. Puis lui, il a arrêté de son métier dans la construction. Il est devenu père au foyer. Puis lui, il ne comprenait pas. Avant, il me disait, je vois pas pourquoi tu es stressée. J'étais seule le matin à préparer les enfants, à les amener partout ce qu'il fallait les amener. Puis souvent, j'arrivais au travail, c'était épuisé comme s'il fallait jamais coucher pour la nuit. Il comprenait pas ça. Puis quand il a commencé à être au foyer, moi, je me suis fermée la gueule, puis je l'ai laissé échouer solide, puis il a échoué souvent. Tu sais, il a amené les enfants en garderie, pas de salopette de pluie, une journée de pluie. Il avait envoyé ma fille à l'école avec juste une sandwich dans son lunch pour toute la journée, même pas de jus d'eau, de collation, rien. Fait que tu sais, il a comme échoué, mais il s'est rattrapé. Puis à un moment donné, ça a pris 7 mois. Puis après 7 mois, il est venu me voir, puis il dit, « Merde, je viens de catcher Puis je m'excuse de t'avoir laissé toutes ces années-là avec tout ça sur le dos.
Fait que wow.
Lui, il avait beau être le gars qui fait la vaisselle, il avait beau être le gars qui fait du ménage, il avait beau être le gars qui aime ses enfants qui jouent avec, il n'y avait pas la gestion derrière toute la mécanique de la famille. Puis quand il est donné, il a fini par catcher. Moi, ça m'est déjà arrivé, il passait dans la laveuse sécheuse, la laveuse a sonné. Il passait dedans, puis il a passé comme si rien n'était. Puis là, hey, je me suis fâchée, j'ai pris le linge dans la laveuse. Je disais, il y a tes bobettes là-dedans, voir que je t'ai oublié de te dire, mets la laveuse dans la sécheuse, tu sais. Fait qu'il y a toute cette charge mentale-là que les femmes ont aussi, que les hommes ont de l'âme à percevoir, même si c'est les plus fins, empathiques, attentionnés du monde, puis dévoués, qui ne réalisent pas aussi qu'ils viennent jouer sur la libido grandement. C'est fait que, tu sais, il y a le côté qu'on est comblé par notre bébé en termes d'amour, attention, on cherche autre chose. Il y a le côté transformation, où est-ce qu'on était une personne, on se transforme en une nouvelle, on doit se redécouvrir. Ça, ça se passe par nous-mêmes. Donc, c'est quelque chose de gros, de très, très... C'est une transformation, c'est immense, mais il y a tout le côté charge mentale où est-ce qu'on se sent toute seule à prendre les rendez-vous, à se rendre au rendez-vous. Moi, mon chum, il a commencé à aller récemment chez le médecin avec les quatre enfants tout seul, mais avant, moi, j'y allais toute seule. Puis là, il dit, hey, c'est de la job, hein, juste toutes les habiller, toutes les amener, Nicole à s'amener jouer pour pas que chiole dans la salle d'attente, les faire attendre, essayer de parler au médecin pendant que tous les enfants sont là. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça qui font qu'au bout du compte, on est épuisé.
Ouais, je veux pas dire. Je ne veux pas défendre les hommes là-dedans, mais parfois, puis je fais attention à mes mots, parfois, il y a certaines personnes dans le couple qui vont aimer ça, la prendre cette charge-là, qui ne voudront pas la déléguer. Qui vont,
en fait, qu'on va vouloir prendre... déléguer, puis on va repasser en arrière de toute façon, ça. Juste pour s'assurer que c'est fait, tu sais.
Ça, il en parle de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de façons de saboter. De prendre en charge pour avoir des responsabilités. Puis il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire qui vont faire en sorte qu'on va dire de la merde. C'est tellement plus compliqué de le déléguer que de le faire moi-même, mais je reste même épuisée de le faire moi-même. Fait que, par exemple, de plier serviette tout croche, c'est une façon de saboter, puis après ça, de dire, OK, ben je vais plier moi-même. La pile tient même pas quand c'est lui qui plie, par exemple.
En tout cas, j'allais dire, c'est pas si grave que ça qu'elle soit pliée croche non plus.
Mais ça, ben, on la pile tient pas, faut la replier après,
faut la replacer derrière.
Ou, par exemple, tu sais, faire une tâche, puis devoir tout dire, comme va faire l'épicerie, mais dire la liste d'épicerie. Fait que nous-mêmes, aller dans le frigo, c'est qu'est-ce qui mord. Sinon, il va faire l'épicerie, mais il achète la mayo, il y en avait encore, puis c'était du ketchup qui manquait, tu sais. Fait que c'est l'incompétence, mettons, volontaire ou
échouer
volontairement, qu'on commence à passer derrière, puis c'est plus lourd pour nous de donner toutes les étapes. Parce qu'en tant que tel, je serais pas censée dire à mon chum, prenons les rendez-vous pour qu'on fasse tester les yeux.
Ouais.
Il est père, il est censé savoir lui-même qu'il faut qu'il prenne rendez-vous pour tester les yeux, puis il sait qui vont à l'école, fait qu'il faut trouver des rendez-vous de soir. Mais la vérité, c'est que moi, je vais dire, hey, on est dû pour les dents, on est dû pour les yeux, on est dû pour ci, on est dû pour ça. Fait que c'est, puis s'il fait, OK, ben là, on est tout disponible lundi matin, mais prends-les toi-même l'agenda pour checker. Fait que souvent, il y a, puis ça, c'est vraiment prouvé, là, tu sais, je veux dire, chercher, si vous avez vraiment la volonté de vous questionner là-dessus, c'est désagréable, mais c'est à déconstruire, puis c'est juste plus beau après. Le sexe est meilleur, je vous le jure.
Ouais.
Mais c'est vraiment intéressant d'aller voir les patterns derrière. C'est beaucoup ça, là, cette incompétence-là volontaire qui fait qu'au bout du compte, ça nous empire notre charge. On se ramasse à faire mieux tout seul qu'avec vous.
Sur le dad. En fait, on pourrait même parler du phénomène du dad blessing. C'est ces papas qui sont louanges. En fait, oh, regarde, il prend soin de ses enfants. On voit un papa là, à l'épicerie avec ses enfants. Un papa, justement,
je
à la clinique.
Je peux pas y aller en soir, je garde mes enfants.
Ouais, il garde ses enfants.
Mais ça, c'est les doubles standards. Ils sont partout, là. C'est vraiment incroyable. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été plus à la maison avant mon web. Puis personne ne me disait, wow, t'es mère au foyer, c'est fantastique. Mais mon chum, quand il est devenu père au foyer, elle avait le monde à ses pieds. C'était un dieu tout puissant. Tout le monde le vénérait. Un père au foyer, que c'est beau. C'est comme, aïe, il n'y a jamais eu de commentaires.
Mais c'est ça.
Même quand c'était moi, là. Fait qu'il y a des doubles standards aussi. On a des attentes beaucoup moins grandes envers les pères qu'envers les mères. Puis les mères, on va plus les juger que les vénérer, là, t'sais.
Exactement. Et ça, c'est le phénomène du dad blessing. En fait, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens qu'un père soit félicité de prendre soin de ses propres enfants.
Mais ça fait pas de sens. Au niveau sexuel, pour de vrai, moi, mon chum, c'est un bon gars, puis je me disais, il fait la vaisselle. Il a vraiment fallu qu'on vive l'inverse complètement pour capter à quel point, en fait, j'en avais ses épaules. Puis je suis désolée, mais quand tu finis ta journée, puis qu'à 8 heures, tu étais déjà épuisée, mm-hmm. t'as pas envie de baiser le soir, là.
Exact.
Mais moi, depuis qu'il prend la charge, puis on la prend à deux parce qu'on l'a expérimenté les deux, puis on a vraiment, honnêtement, fait ce travail-là qui a été extrêmement pénible pour moi et pour lui. C'est une déconstruction épouvantable à traverser, mais qui est tellement nécessaire.
Oui.
Maintenant, on équilibre, puis on le voit, puis on est vaillant, on est beaucoup plus aidant l'un envers l'autre. La sexualité va mieux aussi.
Et il y a également l'heure sexuelle qui peut être intéressante à découvrir parce que semble-t-il qu'on a tous une heure sexuelle. Il y en a pour qui leur heure de pic hormonal et de libido dans la journée, c'est plus autour de 3-4 heures. D'autres, c'est le matin, d'autres le soir. Donc, ça peut peut-être être intéressant de découvrir ça, là, d'aller plus
en profondeur. C'est ça, c'est un enjeu. Moi, mon pic est le matin, mais t'as 4 enfants, fait que tu sais, c'est pas facile, là. Fait que effectivement, il y a des petites contraintes comme ça. Oui, c'est de se découvrir soi-même, en fait. Puis notre partenaire, ben c'est une équipe, on fait équipe ensemble pour avoir du fun, avoir du plaisir, mais on n'a pas aucun devoir un envers l'autre, par contre.
Exactement. Donc, Mélanie Claveau, physiothérapeute, surnommée aussi la physio, pas gênée, qu'on peut retrouver un peu partout sur les réseaux. C'est déjà la fin de l'émission, ça a passé à la vitesse de l'éclair, ça n'a aucun bon sens. On peut retrouver là, sur les réseaux les endroits où tu vas présenter tes prochaines conférences, conférences vulves, ton livre également, qui est en librairie présentement.
Oui.
Yes.
Donc, on peut tout voir ça sur mon site, laphysiopassionnée.com. Je suis partout, Instagram, TikTok, YouTube. J'ai mon podcast aussi, le canal vaginal. Justement, je reçois des experts demain sur les hormones.
Ah, oh, ça va être
intéressant. Là, s'il y en a qui veulent aller écrire leur histoire, leurs questions, moi, je lis les histoires des personnes qui m'ont écrit sur mon petit formulaire, sur mon site pour mon podcast, puis je les lis aux experts. Puis là, on peut vraiment là, avoir des réponses justes que moi, je peux pas toujours donner. Fait que... C'est tout ce contenu le fun à regarder, écouter.
C'est génial. Un immense merci. On se reparle très, très bientôt, j'espère, parce qu'on a encore plein de sujets à aborder. On veut faire un spécial sur l'histoire de la vulve. On veut parler justement de la présence du papa.
Parce que, on a des perceptions totalement divergentes. Ben, oui, c'est normal, puis c'est correct d'en parler, puis de ne pas être d'accord. C'est ça.
Exact.
C'est confrontant, c'est hyper désagréable, mais quand on passe par-dessus ce petit moment désagréable-là, c'est vraiment beau ce qui en ressort. Fait que.
Voilà.
Outrons-nous.
Yes! Parlons de tout sans tabou. Merci beaucoup, Mélanie Claveau, physiothérapeute, la physio pas gênée. Merci beaucoup, Nick. Merci les auditeurs. On n'a pas eu le temps de vous lire, mais on garde tout ça en banque pour la prochaine émission. C'était La Sexploratrice sur les ondes de choix, 98h Radio X.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel.